Chapitre 48. Confiture de fraises. Ils emportent la lumière partout où ils rôdent, peau brûlée. Karmchen, page 104. Shalan, silencieuse, était assise dans un lit stérile au drap blanc, dans l'un des nombreux hôpitaux de Carbrandt, adossée à des oreillers. Son bras était enveloppé d'un pansement impeccable et soigneux, et elle tenait devant elle sa planche à dessin. Les infirmières l'avaient autorisée à contre-cœur à dessiner tant qu'elle ne se fatiguait pas. Son bras lui faisait mal. Elle s'était entaillée plus profondément qu'elle ne l'avait voulu. Elle avait espéré faire croire qu'elle s'était blessée en brisant la carafe. Elle n'avait pas réfléchi assez pour se rendre compte que ça ressemblerait à une tentative de suicide. Bien qu'elle ait protesté qu'elle était simplement tombée du lit, elle voyait bien que ni les infirmières ni les Ardents ne croyaient à cette explication. Elle ne pouvait pas le leur reprocher. Le résultat était embarrassant, mais, au moins, personne ne pensait qu'elle avait pu spiricanter pour produire une telle quantité de sang. Cet embarras en valait la peine s'il lui permettait d'échapper aux soupçons. Elle continua à dessiner. Elle se trouvait dans une grande pièce aux allures de vestibule dans un hôpital carbrantien, où des lits nombreux s'alignaient contre les murs. En dehors des contrariétés évidentes, ces deux jours d'hôpital s'étaient très bien passés. Elle avait eu beaucoup de temps pour réfléchir à cet après-midi si étrange, où elle avait vu des fantômes, transformé du verre en sang et entendu un Ardent proposer de quitter l'Ardence pour partir avec elle. Elle avait fait plusieurs croquis de cette chambre d'hôpital. Les créatures rôdaient dans ses dessins, se cantonnant au bord éloigné de la pièce. Elle avait du mal à dormir en les sachant présentes, mais elle s'y habituait lentement. L'air sentait le savon et l'huile de listre. On la baignait régulièrement et on nettoyait son bras à l'antiseptique pour chasser les sprènes de pourriture. La moitié des lits environ étaient occupés par des femmes malades, et il y avait des cloisons mobiles en tissu au châssis de bois que l'on pouvait faire rouler autour d'un lit pour plus d'intimité. Shalan portait une robe blanche et simple qui se détachait à l'avant et avait une longue manche gauche qui se refermait pour protéger sa sage main. Elle avait transféré sa sage bourse dans la robe, la boutonnant à l'intérieur de la manche gauche. Personne n'avait regardé le contenu de la bourse. Lorsqu'on faisait sa toilette, on la déboutonnait et on la lui tendait sans un mot, malgré son poids inhabituel. On ne regardait pas l'intérieur de la sage bourse d'une femme. Malgré tout, elle la conservait avec elle chaque fois qu'elle le pouvait. À l'hôpital, on subvenait à tous ses besoins. Mais elle ne pouvait pas partir. Ça lui rappelait les années passées, chez elle, dans la propriété de son père. Ce qui, de plus en plus, l'effrayait autant que les créatures à tête de symbole. Elle avait goûté à l'indépendance et ne voulait pas redevenir ce qu'elle avait été. Choyée, dorlotée, exhibée. Malheureusement, il était peu probable qu'elle soit en mesure de reprendre ses études avec Jasna. Sa supposée tentative de suicide lui donnait une excellente raison de rentrer chez elle. Il fallait qu'elle parte. Il serait égoïste de rester, de renvoyer le spiricante seul, compte tenu de cette occasion de partir sans éveiller les soupçons. Par ailleurs, elle avait utilisé le spiricante. Elle pourrait profiter du long voyage de retour pour comprendre comment elle s'y était prise, puis être prête à aider sa famille à son arrivée. Elle soupira, puis, à l'aide de quelques traits d'ombre, termina son dessin. C'était une image de cet étrange endroit où elle était allée. Cet horizon lointain au soleil puissant, mais froid. Des nuages qui couraient vers lui dans le ciel, des océans infinis en bas, créant l'impression que le soleil se trouvait au bout d'un long tunnel. Au-dessus de l'océan flottaient des centaines de flammes, un océan de lumière au-dessus de l'océan de perles de verre. Elle leva l'image et regarda le croquis placé en dessous. Il la représentait, recroquevillée sur son lit, entourée de ces étranges créatures. Elle n'osait pas dire à Jasna ce qu'elle avait vu, de peur de révéler qu'elle avait spiricanté et qu'elle avait par conséquent commis ce vol. L'image suivante la représentait étendue sur le sol au milieu du sang. Elle leva les yeux de son carnet de croquis. Une Ardente vêtue de blanc était assise contre le mur non loin d'elle, feignant de coudre alors qu'elle montait la garde au cas où Shalan déciderait de nouveau de se faire du mal. Shalan pinça les lèvres. « C'est une bonne couverture, » se dit-elle. « Ça marche à la perfection. Arrête de te sentir embarrassée à ce point. » Elle revint au dernier de ses croquis de la journée. Il représentait l'une des créatures à tête de symbole, sans yeux ni visage. Rien que ce symbole étrange et irrégulier, hérissé de pointes évoquant le cristal taillé. Il y avait forcément un rapport avec la spiricantation, n'est-ce pas? J'ai visité un autre endroit, se dit-elle. Je crois que j'ai parlé avec l'esprit du gobelet. Est-ce qu'un gobelet possédait une âme? En ouvrant sa bourse pour vérifier la présence du spiricante, elle avait découvert que la sphère que lui avait donnée Kabzal avait cessé de briller. Elle se rappelait une vague sensation de lumière et de beauté, une tempête qui faisait rage en elle. Elle avait pris la lumière de la sphère et l'avait donnée au gobelet, au spren du gobelet, pour le soudoyer afin qu'il se transforme. Était-ce ainsi que fonctionnait la spiricantation? Ou cherchait-elle simplement à établir des liens? Shallan baissa son carnet de croquis tandis que des visiteurs entraient dans la pièce et se déplaçaient parmi les patients. La plupart des femmes se redressèrent d'un air surexcité en voyant le roi Taravangian avec sa robe orange et son visage bienveillant et âgé. Il s'arrêta à chacun des lits pour bavarder. Elle avait entendu dire qu'il visitait fréquemment l'hôpital, au moins une fois par semaine. Enfin, il parvint au chevet de Shallan. Il lui sourit et s'assit lorsque l'un de ses nombreux serviteurs plaça pour lui un tabouret matelassé. « Et la jeune Shallan d'Avar, j'étais terriblement désolée d'apprendre votre accident. Je vous présente mes excuses pour ne pas être venue plus tôt. Mes devoirs d'État m'en empêchaient.
Ce n'est vraiment pas un problème, Majesté.
Mais si, répondit-il. Cependant, je n'ai pas le choix. Beaucoup se plaignent que je passe une trop grande partie de mon temps ici. »
Shallan sourit. Ses plaintes n'étaient jamais véhémentes. Les gouverneurs et les lords qui jouaient à des jeux politiques à la cour se satisfaisaient parfaitement d'un roi qui passait autant de temps hors du palais, ignorant leurs intrigues.
« Cet hôpital est incroyable, Majesté, » dit-elle. « Je n'arrive pas à croire que tout le monde y soit si bien traité. »
Il afficha un large sourire. « Mon plus grand triomphe. Pâles iris et sombres iris traités de la même manière, et personne n'est refusé. Ni les mendiants, ni les prostituées, ni les marins venus de loin. C'est le palanais qui finance tout, vous savez. D'une certaine façon, même l'ouvrage le plus obscur et le plus inutile aide à guérir les malades.
Je suis contente d'être ici.
J'en doute, mon enfant. Un hôpital comme celui-ci est peut-être la seule chose dans laquelle un homme puisse investir autant d'argent, tout en étant ravi si personne ne s'en sert. C'est une tragédie que vous deviez devenir mon hôte.
Ce que je voulais dire, c'est que je préfère être malade ici plutôt qu'ailleurs. Même si j'imagine que c'est un peu comme de dire qu'il vaut mieux s'étrangler avec du vin qu'avec de l'eau de vaisselle. »
Il éclata de rire.
« Vous êtes adorable, » dit-il en se levant. « Puis-je faire quoi que ce soit pour améliorer votre séjour ?»«
Y mettre fin ?»«
Je crains de ne pas pouvoir l'autoriser, » répondit-il, le regard plus doux. « Je dois m'en remettre à la sagesse de mes chirurgiens et de mes infirmières. Ils affirment que vous courez toujours un risque. » Nous devons penser à votre santé.
Rester ici me rend la santé au détriment de mon bien-être, Majesté.
Il secoua la tête.
Nous ne pouvons pas risquer que vous ayez un autre accident.
Je comprends. Mais je vous promets que je me sens beaucoup mieux. La crise qui m'a frappée était provoquée par le surmenage. Maintenant que je suis détendue, je ne cours plus aucun danger.
C'est une bonne chose, répondit-il. Mais nous devons malgré tout vous garder encore quelques jours.
Oui, Majesté. Mais est-ce que je pourrais au moins avoir des visiteurs?
Jusqu'à présent, le personnel de l'hôpital avait insisté pour qu'on ne la dérange pas.
Oui, je vois en quoi ça pourrait vous aider. Je vais parler aux Ardents et leur suggérer qu'on vous autorise quelques visites.
Il hésita.
Lorsque vous irez de nouveau mieux, je crois qu'il vaudrait mieux que vous interrompiez provisoirement votre formation.
Elle plaqua une grimace sur son visage, s'efforçant de ne pas se sentir dégoûtée de jouer cette comédie.
« Je déteste devoir faire ça, Majesté. Mais ma famille m'a énormément manqué. Je devrais peut-être retourner auprès d'elle. »
« Excellente idée. Je suis sûre que les Ardents seront plus disposés à vous laisser sortir s'ils savent que vous rentrez chez vous. »
Il afficha un sourire bienveillant, posant la main sur son épaule.
« Ce monde est parfois une tempête. » mais rappelez-vous que le soleil finit toujours par réapparaître.
Merci, Majesté.
Le roi s'éloigna pour aller rendre visite à d'autres patients, puis s'entretint tout bas avec les Ardents. Moins de 5 minutes plus tard, Jasnah franchit la porte avec son allure bien droite habituelle. Elle portait une robe magnifique, d'un bleu soutenu avec des broderies dorées. Ses cheveux noirs et lustrés étaient tressés et traversés par 6 fines épingles d'or. Ses joues luisaient de fond de teint, ses lèvres étaient peintes en rouge sang. Elle se distinguait dans cette pièce blanche comme une fleur sur un champ de pierre nue. Elle glissait vers Shallan, les pieds cachés par les pans amples de sa jupe de soie, portant un livre épais sous son bras. Un Ardent lui apporta un tabouret. Et elle s'assit là où le roi s'était tenu l'instant d'avant. Jasnah regarda Shallan, le visage impassible. On m'a dit que ma tutelle était souvent exigeante, peut-être trop rude. C'est la raison pour laquelle je refuse souvent d'accepter des pupilles.
Veuillez me pardonner pour ma faiblesse, clarissime, dit Shallan en baissant les yeux.
Jasnah sembla mécontente. Je ne voulais pas suggérer qu'il y ait une faute de votre part, mon enfant. Je cherchais plutôt à exprimer le contraire. Malheureusement, je n'ai guère l'habitude de ce genre de comportement.
Les excuses ?
Oui.
Eh bien, voyez-vous, dit Shallan, afin de devenir compétente en la matière, il faut d'abord commettre des erreurs. C'est là votre problème, Jasnah. Vous êtes affreusement peu douée pour en commettre.
L'expression de Jasnah s'adoucit. Le roi m'a dit que vous alliez retourner auprès de votre famille.
Quoi ? Quand ça ?
Quand il m'a croisée dans le couloir, répondit-elle, et qu'il m'a enfin donné la permission de vous rendre visite.
À vous entendre, on dirait que vous attendiez là, dehors.
Jasnah ne répondit pas.
Mais vos recherches ?
Je peux m'y consacrer dans la salle d'attente de l'hôpital. Elle hésita. J'ai eu un peu de mal à me concentrer ces derniers jours.
Jasnah, c'est presque humain de votre part.
Jasnah la regarda d'un air réprobateur et Shallan grimaça, regrettant aussitôt ses paroles.
Je suis désolée, j'ai très mal appris ma leçon, n'est-ce pas?
À moins que vous ne vous entraîniez simplement à l'art des excuses. Afin de ne pas être prise au dépourvu quand le besoin s'en fera sentir comme je le suis.
Comme c'est intelligent de ma part.
En effet.
Est-ce que je peux arrêter, dans ce cas ?
Demanda Shallan.
Je crois que j'ai eu assez d'entraînement.
Je pense, dit Jasnah, que les excuses sont un art dans lequel nous aurions bien besoin de quelques mètres de plus. Ne me prenez pas comme modèle en la matière. L'orgueil est souvent confondu avec l'irréprochabilité. Elle se pencha. Je suis désolée, Shallan Davar. En vous faisant trop travailler, j'ai peut-être causé du tort au monde en lui volant l'une des grandes érudites de la génération montante. Shallan rougit et se sentit encore plus idiote et coupable. Son regard frôla furtivement la main de sa maîtresse. Jasnah portait le gant noir qui cachait le faux. Des doigts de sa sage main, Shallan serra la bourse qui contenait le spiricante. Si seulement Jasnah savait. Jasnah prit le livre qu'elle tenait sous son bras et le posa sur le lit, près de Shallan. C'est pour vous. Shallan s'en empara. Elle l'ouvrit à la première page, mais la trouva vide. La suivante aussi, ainsi que toutes celles qu'il contenait. Encore plus songeuse, elle leva les yeux vers Jasnah. On l'appelle le livre des pages infinies, déclara Jasnah.
Je suis à peu près sûre qu'il n'est pas infini, clarissime.
Elle le feuilleta jusqu'à la dernière page et la lui montra. Jasnah sourit. C'est une métaphore, Shallan. Il y a de nombreuses années, quelqu'un qui m'était très cher a fait une tentative fort convaincante pour me convertir au vaurinisme. C'est la méthode qu'il a employée. Shallan pencha la tête sur le côté. Vous cherchez la vérité, reprit Jasnah. Mais vous vous accrochez également à votre foi. C'est quelque chose de tout à fait admirable. Allez trouver le dévotaire de sincérité. C'est l'un des plus petits dévotaires, mais ce livre est leur guide.
Avec des pages blanches ?
En effet. Ils vénèrent le Tout-Puissant, mais sont guidés par la croyance qu'il existe toujours d'autres réponses à trouver. Le livre ne peut pas être rempli, car il y a toujours quelque chose à apprendre.
Ce dévotaire est un endroit où l'on n'est jamais pénalisé pour des questions, y compris celles qui défient les doctrines mêmes du vorinisme. Elle secoua la tête. Je ne peux vous expliquer leurs coutumes. Vous devriez pouvoir les trouver en Védénar, bien qu'il n'y en ait aucun à Carbrandt. Chalan s'interrompit, remarquant que la main de Jasna reposait sur le livre en un geste affectueux. Il lui était précieux. Je ne pensais pas qu'il soit possible de trouver des ardents disposés à remettre en question leurs propres croyances. Jasna haussa les sourcils. Vous trouverez des hommes sages dans toutes les religions, Chalan, et des hommes bons dans toutes les nations. Ceux qui cherchent réellement la sagesse sont ceux qui reconnaissent des mérites chez leurs adversaires et qui apprendront de ceux qui les détrompent de leurs erreurs. Tous les autres, hérétiques, vorins, hispéristes ou mahakiens, sont pareillement étroits d'esprit. Elle retira la main du livre et fit mine de se lever.
Il se trompe, dit soudain Chalan en comprenant quelque chose.
Jasna se retourna vers elle.
Kabzal, dit Chalan en rougissant. Il dit que vous faites des recherches sur les néantifères parce que vous voulez prouver que le vorinisme a tort.
Jasna renifla de dérision. Je ne consacrerai pas 4 années de ma vie à une quête aussi vaine. C'est de l'idiotie pure de tenter de prouver quelque chose par la négative. Que les vorins croient donc ce qu'ils souhaitent. Les plus sages d'entre eux trouveront dans leur foi bonté et réconfort. Les idiots seront idiots, quelle que soit leur croyance. Chalan fronça les sourcils. Dans ce cas, pourquoi Jasna étudiait-elle les néantifères?
Tiens, quand on parle de l'orage, le voilà qui gronde, dit Jasna en se tournant vers l'entrée de la pièce.
Surprise, Chalan s'aperçut que Kabzal venait d'arriver, vêtu de sa robe grise habituelle. Il se disputait tout bas avec une infirmière qui désignait le panier qu'il portait. Enfin, l'infirmière leva les bras en l'air et s'éloigna, laissant Kabzal approcher, triomphant.
Enfin, dit-il à Chalan.
La vieille Moongam peut être un vrai tyran parfois.
Moongam ?
Demanda Chalan.
L'ardente qui dirige cet endroit, répondit Kabzal. On aurait dû m'autoriser à entrer immédiatement. Après tout, je sais ce dont vous avez besoin pour aller mieux.
Il sortit un pot de confiture avec un large sourire. Jasna resta sur son tabouret, regardant Kabzal de l'autre côté du lit.
J'aurais cru, dit-elle sèchement, que vous accorderiez un répit à Chalan, compte tenu de la façon dont vos attentions l'ont conduite au désespoir.
Kabzal rougit. Il regarda Chalan, qui vit une lueur de supplication dans ses yeux.
Ce n'était pas vous, Kabzal, dit Chalan. C'est simplement que je n'étais pas prête à vivre loin de la propriété familiale. Je ne sais toujours pas ce qui m'a pris. Je n'avais jamais rien fait de semblable.
Il sourit et tira un tabouret pour lui.
Je crois, dit-il, que c'est l'absence de couleur dans ce genre d'endroit qui garde les gens si longtemps malades. Ça, et l'absence de nourriture convenable.
Avec un clin d'œil, il tourna le pot en direction de Chalan. Il était d'un rouge sombre et intense. Fraise.
Je n'en ai jamais entendu parler, dit-elle.
C'est extrêmement rare, dit Jasna, en tendant la main pour prendre le pot. Comme la plupart des plantes de Chinovar, elles ne peuvent pas pousser ailleurs.
Kabzal sembla surpris lorsque Jasna ôta le couvercle et plongea un doigt dans le pot. Elle hésita, puis porta un peu de confiture à son nez pour le renifler.
J'avais l'impression que vous n'aimiez pas la confiture, clarissime Jasna, dit Kabzal.
En effet, répondit-elle. J'étais simplement curieuse de son odeur. J'ai entendu dire que les fraises étaient très particulières.
Elle revissa le couvercle, puis s'essuya le doigt sur son mouchoir de tissu.
J'ai aussi apporté du pain, dit Kabzal.
Il sortit une petite miche de ce pain moelleux.
C'est gentil à vous de ne pas m'en vouloir, Chalan, mais je vois bien que mes attentions ont été trop effrontées. J'ai pensé que je pourrais peut-être vous apporter ceci et...
Et quoi ?
Demanda Jasna.
Vous absoudre ?
Désolé de vous avoir poussé au suicide, tenez, voici du pain.
Il rougit et baissa les yeux.
Évidemment que j'en veux bien, dit Chalan en lançant un regard noir à Jasna. Et elle en voudra aussi. C'était très gentil à vous, Kabzal.
Elle prit le pain, en rompit un morceau pour Kabzal, un pour elle-même, puis un pour Jasna.
Non, dit Jasna. Merci.
Jasna, dit Chalan. Vous voudriez bien en goûter un peu, s'il vous plaît. »
Ça l'ennuyait de voir ces deux-là s'entendre si mal. L'érudite soupira.
« Ah, très bien. »
Elle prit le pain et le garda dans sa main tandis que les deux autres mangeaient. Le pain était tendre et délicieux, même si Jasna grimaça lorsqu'elle se mit à mâcher le sien.
« Vous devriez vraiment goûter la confiture, » dit Kabza à Chalan. « Celle aux fraises est difficile à trouver. J'ai dû faire pas mal de demandes. »
« En soudoyant les commerçants avec l'argent du roi, je n'en doute pas, » commenta Jasna. Kabzal soupira.
« Clarissime Jasna, je suis bien conscient que vous ne m'aimez pas beaucoup, mais je fais de gros efforts pour me montrer agréable. Pourriez-vous au moins prétendre en faire de même ?»
Jasna étudia Chalan, se rappelant sans doute l'idée de Kabzal selon laquelle le but de ses recherches consistait à démontrer l'absurdité du vorinisme. Elle ne s'excusa pas, mais ne lança pas de répartie non plus.
C'est déjà ça, se dit Chalan.
La confiture, Chalan, dit Kabzal, en lui tendant une tranche de pain.
Ah oui.
Elle ôta le couvercle du pot, qu'elle tint entre ses genoux, et se servit de sa libre main.
Vous avez manqué votre navire, j'imagine, dit Kabzal.
Oui.
De quoi parlez-vous?
Demanda Jasna.
Chalan grimaça.
Je comptais partir, clarissime. « Je suis désolée, j'aurais dû vous en parler. »
Jasna se laissa aller sur son siège. « J'imagine que je devais m'y attendre, l'un dans l'autre. »«
Confiture ?» proposa de nouveau Kabzal.
Chalan fronça les sourcils. Il insistait beaucoup sur cette confiture. Elle leva le pot et le renifla, puis le reposa.
« Elle a une odeur atroce. C'est de la confiture? Ça sent le vinaigre et la vase.
Quoi ?»
demanda Kabzal, alarmé. Il prit le pot, le renifla, puis s'écarta l'air écœuré.
« On dirait que vous avez eu un pot gâté, » dit Jasna. « Ce n'est pas censé avoir cette odeur-là ?»«
Pas du tout, »
répondit Kabzal. Il hésita, puis plongea le doigt dans la confiture malgré tout et en enfourna une grosse bouchée.
« Kabzal !» s'écria Chalan. « C'est répugnant !»
Il toussa, mais s'obligea à l'avaler.
« Pas si terrible en réalité. » « Vous devriez essayer. »«
Quoi ?»«
Vraiment ?» dit-il en lui tendant le pot. « Enfin, je voulais que ce soit spécial pour vous. Et ça n'a fait qu'atrocement mal tourner. »«
Pas question que je goûte ça, Kabzal. »
Il hésita, comme s'il envisageait de l'y obliger. Pourquoi se comportait-il si bizarrement ? Il leva la main vers sa tête, se leva et s'éloigna du lit en titubant. Puis il entreprit de quitter la pièce en courant. Il ne parvint qu'à mi-chemin avant de s'effondrer à terre, le corps glissant légèrement sur la pierre immaculée.
« Kabzal !»
dit Chalan en sautant hors du lit pour se précipiter à ses côtés, vêtu de la seule robe blanche. Il tremblait et... elle aussi. La pièce se mit à tourner. Elle se sentit soudain extrêmement fatiguée. Elle voulut se lever mais glissa, prise de vertige. Elle se sentit à peine heurter le sol. Quelqu'un s'agenouillait au-dessus d'elle en jurant. Jasna. Sa voix était lointaine.
« On l'a empoisonné. J'ai besoin d'un grenat. Qu'on m'apporte un grenat. »
« Il y en a un dans ma bourse, » se dit Chalan. Elle parvint à défaire la tache de la manche de sa sage main.
« Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'elle veut ? Mais non, je ne peux pas lui montrer ça. Le spiricante. »
Ses pensées étaient tellement confuses.
« Chalan, »
dit la voix de Jasna, inquiète, très douce. « Je vais devoir spiricanter votre sang pour le purifier. Ce sera dangereux, extrêmement dangereux. Je ne suis pas très douée avec la chair ou le sang. Ce n'est pas là que réside mon talent. »«
Elle en a besoin, pour me sauver. »
Faiblement, elle sortit sa sage bourse de sa main droite.
« Vous ne pouvez pas... »
« Chut, mon enfant. » « Où est ce grenat ?»«
Vous ne pouvez pas spiricanter, »
dit faiblement Chalan en ouvrant les attaches de sa bourse. Elle la renversa et vit vaguement un objet doré se faufiler à terre, à côté du grenat que Kabzal lui avait donné. Terre des tempêtes. Pourquoi la pièce tournait-elle autant ? Jasna eut un hoquet, lointain, qui s'estompait. Quelque chose se produisit. Une vague de chaleur brûlante traversa Chalan, à l'intérieur de sa peau.
comme si on venait de la lâcher dans un chaudron fumant. Elle hurla, cambra le dos, tous ses muscles agités de spasmes. Puis tout devint noir.